des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui sera Lima Ognok, économiste et délégué national à l'économie du Parti Socialiste. Alors, je vous rappelle le contexte. En fait, cette émission est la troisième d'une série de trois que j'ai disjointe des deux précédentes parce que son thème est plus précisément l'Europe, alors que les deux précédentes parlaient essentiellement du Parti Socialiste. Le malheureux Lim était venu faire en studio et en direct une émission sur le rapport Attali le 12 février et il avait accepté de rester avec moi après et de parler à bâton rompu. 1h30 d'enregistrement non-stop, dont voici le troisième volet. Souvenez-vous, à la fin de la deuxième émission, il tenait des propos très pessimistes sur l'Europe en soulignant qu'elle allait dans le mur. Avec une monnaie unique et pas de budget, sans harmonisation sociale ni fiscale, on risquait une situation de déflation généralisée qui ne présageait rien de bon, disait-il, ni économiquement, ni socialement, ni politiquement. Alors, je lui ai posé la question qui tue.
Alors que faire, on sort de l'Europe ?
Ben, que faire, je vous dis, le plan B serait de repartir de l'Eurogroupe, en laissant ceux qui n'y sont pas gérer leur propre monnaie ou préparer la convergence vers l'Eurogroupe, mais l'Eurogroupe montrerait l'exemple. Mais en l'absence d'un tel plan B, hein, qui ne peut voir le jour que si les gouvernements des pays de l'Eurogroupe prennent conscience de la gravité de la situation. En l'absence de ça, il y aura nécessairement un jour un ou des pays qui seront tentés de revenir à des monnaies nationales pour pouvoir se libérer des marges de manœuvre que leur interdit aujourd'hui le régime de monnaie unique. Mais ils vont hésiter parce que la crise financière fait que si aujourd'hui vous n'avez pas la monnaie unique, il y aurait sans doute eu un risque de décrochage d'une ou de plusieurs monnaies, quoi. À supposer que on soit un régime de francs et que la Société Générale ait provoqué une vague de spéculation contre les valeurs françaises, vous auriez très bien pu avoir un décrochage du franc par rapport aux autres monnaies. Bon, mais si vous voulez, ça épuise pas le fait que le débat soit ouvert dans les années qui viennent si la monnaie unique gérée de façon trop restrictive par la Banque Centrale Européenne conduit à une monnaie surévaluée qui plombe complètement le fonctionnement des économies européennes qui sont dès lors condamnées dans la compétition à baisser les salaires.
Comment ceux qui sont pro-européens peuvent-ils justement valider cette idée de la compétition permanente qu'il faudrait avoir au niveau mondial? C'est ce que dit aussi Attali dans son rapport. Il faudrait... Vous êtes en train de dire globalement que les choses actuellement ne peuvent marcher que par la baisse des salaires, effectivement, notamment pour être compétitif vis-à-vis de l'extérieur.
Alors moi, je dis que d'un point de vue purement théorique, quand vous considérez des économies en concurrence, en cas de déséquilibre, quand une économie, par exemple, subit un déficit commercial par rapport aux autres, vous avez en théorie trois façons d'ajuster le déséquilibre. La première, c'est de dévaluer, si vous avez l'autonomie de votre taux de change. La deuxième, c'est que l'État, par le budget, finance les industries en difficulté pour qu'elles rattrapent leur déficit de compétitivité. C'est ce que l'on appelle le jeu des fonds structurels en Europe. Et troisième façon, si vous jouez pas sur les deux premiers instruments, là, c'est de baisser les salaires pour gagner de la compétitivité prix, puisque si vous baissez les salaires, vous pouvez baisser les prix, donc sur le marché intérieur comme sur le marché extérieur. Donc voilà, il y a trois mécanismes d'ajustement. Donc Dès lors que vous avez une monnaie unique, vous ne pouvez plus dévaluer. Dès lors que vous avez un pacte de stabilité et peu de budget communautaire, vous ne pouvez pas financer par le budget. Donc le seul instrument qui reste en théorie, c'est le dumping social et fiscal. Donc vous avez baissé les salaires, les impôts, etc. quoi. Et c'est ce qui est en train de se passer en Europe. C'est que, au sein même des pays de l'Eurogroupe, où il y a une monnaie unique, où il y a des politiques budgétaires restrictives, parce que il y a un tabou de la dépense publique aujourd'hui, la seule stratégie, c'est celle que l'Allemagne nous engage à réaliser, qui est la baisse des coûts et le transfert des charges de protection sociale sur une TVA. Et c'est une stratégie qui me paraît, d'un point de vue économique, absolument pas performante, parce que conduite depuis maintenant plus d'un moyen terme, plus de 10 ans, elle a fait de l'Europe la zone de croissance la plus faible du monde, avec des déficits budgétaires qui se creusent malgré les compressions de dépenses, une montée des inégalités et un chômage persistant. Je vois pas comment ça peut être viable à long terme, surtout que les performances commerciales de nombreux pays, sauf l'Allemagne, se dégradent continuellement. Encore que l'Allemagne commence à souffrir de la surévaluation de l'euro, les industriels allemands commencent à s'en plaindre.
Mais comment intellectuellement, du coup, on peut le supporter au sens de soutenir que ce mode d'organisation de l'économie est bon?
Ah, moi, j'ai pas dit qu'il était bon. Là, je vous fais le constat de la façon dont ça fonctionne.
Les autres, justement, c'est que je ne comprends pas ce qui me... Ça me semble être un diagnostic de bon sens, à la limite, ce que vous dites. Les autres doivent bien voir la même chose. Et comment ils peuvent continuer de s'engager, mordicus, dans une voie qui, visiblement, ne peut amener qu'à un déclin?
Parce que les dogmatiques ne sont pas là où on pense.
Des sous et des hommes en compagnie de Lim Hongnok, délégué national à l'économie du Parti socialiste. Lim venait de dire « Les dogmatiques ne sont pas là où on pense ». Je lui ai demandé de développer sa pensée.
Les dogmatiques ne sont pas où on pense qu'ils sont, à savoir chez les prétendus archaïques. Non, les dogmatiques aujourd'hui sont du côté des idéologues néolibéraux. Qui pense mordicus que le libre-échange, la déréglementation du marché du travail, le retrait de l'intervention publique est le gage d'une efficacité économique. Ils y croient mordicus. Et personne dans les chroniques économiques quotidiennes à la radio et à la télévision ne fait état des piètres performances sur le plan de la croissance, du commerce extérieur, des déficits publics, du chômage et des inégalités que subissent la plupart des pays européens depuis que les recommandations de ces experts sont mises en application.
Mais quand bien même les médias ne s'en feraient-ils pas l'écho, les économistes libéraux doivent bien le voir.
Ah, ben vous savez, les économistes académiques s'en rendent bien compte. Joseph Stiglitz, qui passe pour un altermondialiste, dans le champ de la science économique académique, est un économiste très orthodoxe. Qui est arrangé du côté des économistes néo-valarasiens, c'est-à-dire les sociolibéraux, si vous voulez. Bon, mais si l'on applique l'analyse économique dite néoclassique elle-même, elle n'est pas aussi dogmatique que les politiques qui sont appliquées au nom des principes que le grand public connaît comme étant les principes néolibéraux. La théorie économique académique néoclassique reconnaît l'existence de défaillances du marché, reconnaît, Stiglitz vous expliquera que dans le domaine de l'énergie, l'intervention de l'État n'est pas idiote, qu'il y a des monopoles naturels et que la nationalisation de certaines entreprises n'est absolument pas une aberration économique. Mais c'est véritablement par dogmatisme et avec une méconnaissance totale de l'histoire de la pensée économique qu'aujourd'hui les décideurs politiques appliquent les remèdes libéraux sans précaution. Et les vrais pragmatiques sont pas de ce côté-là. Aujourd'hui, les vrais pragmatiques sont de notre côté. Lorsque nous posons le problème de la protection des emplois et de l'industrie, c'est pas par principe ou par volonté d'empêcher le développement de l'Asie, loin de moi cette idée. C'est parce que pragmatiquement ça ne marche pas. Contrairement à ce que l'on pense, le libre-échange n'est pas porteur d'une mondialisation heureuse. Il empêche le développement des pays émergents parce que engagé dans la course au dumping fiscal et social, y a plus les moyens sur place pour développer les infrastructures. On se plaindra ensuite que ces pays ne font pas de développement durable. Il n'y a pas de marché intérieur parce qu'ils sont engagés dans cette course-là. Il n'y a pas de co-développement. Et puis, il faut regarder concrètement la qualité des marchandises produites. Tous les jouets sont aujourd'hui fabriqués en Chine. Avez-vous vu la qualité des jouets par rapport à ce que c'était auparavant? Du côté des industries de luxe ou même des industries qui produisaient des biens de qualité, le point de rentabilité financière qui manque pousse à la délocalisation. Et tout ça pour des résultats qui sont extrêmement discutables. Dans le domaine de l'agroalimentaire, prenez un exemple, tenez, Thierry Mandon, maire de Ris-Orangis, m'expliquait l'autre jour que depuis qu'on a délocalisé la fabrication des biscuits Pépito en Bulgarie, les biscuits n'ont plus le même goût. Pépito n'a plus le même goût que ce que vous mangez quand vous étiez petite. L'autre jour, je discutais avec les salariés de Cycle Europe qui fabriquaient auparavant les cadres des bicyclettes Décathlon. Décathlon a délocalisé la fabrication des cadres à Taïwan. Pour gagner quoi ? 9 euros. Pour gagner 9 euros avec des cadres qui reviennent avec des défauts et qui nécessitent une heure de travail à chaque fois. Une heure de travail, c'est plus que 9 euros. Donc vous y gagnez que dalle. On peut allonger la liste, hein. On dit que les coûts salariaux sont plus faibles. Certes, ils sont 30 fois plus faibles. Mais le prix d'une marchandise fabriquée en Chine comparé au prix de la même marchandise que vous fabriquez en Europe n'est pas 30 fois moins cher. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu ? Y a une marge qui a été adoptée par la multinationale qui a délocalisé. Donc là aussi, la mondialisation n'est pas si heureuse que ça. Il faut arrêter avec cette idée reçue. Et donc, il va falloir mettre de la régulation dans tout ça, il va falloir mettre du co-développement, et le pragmatisme sera de rigueur, il n'est pas du côté du camp d'en face.
Des souhaits des hommes avec Lima Ongnok, alors dernière plage de notre entretien d'une heure et demie.
Et quand vous dites il faudra mettre de la régulation, si j'étais méchante, ce que je ne suis d'ordinaire pas avec vous, je dirais oui, mais c'est un vœu pieux, avec selon quelle modalité, avec quelle force politique, quel rapport politique, dans quel cadre?
Le tarif extérieur commun est prévu dans les textes européens. Il est possible d'utiliser pour fixer des barrières à l'entrée de marchandises produites dans les pays à bas coût, là où sur le territoire domestique il existe une production de substitution. Ça, on sait le faire. Le débat sur la politique industrielle devra un jour être relancé. Il n'y a plus de champions nationaux. Moi, je suis pas chauvin, mais lorsqu'il y avait une véritable politique industrielle dans ce pays, ces champions nationaux structuraient les bassins d'emploi. On parle beaucoup des PME. Mais les PME sont avant tout des entreprises sous-traitantes. Et le fait qu'aujourd'hui, celles-ci ferment l'une après l'autre parce qu'elles sont mises en concurrence avec les pays à bas coût en zone dollar vient du fait que l'on a abandonné la politique industrielle. Cela a deux effets. Premièrement, les taux d'investissement sont plus bas et quand il n'y a pas d'investissement dans les grandes entreprises, il n'y a pas de commandes pour les petites entreprises. Puis deuxièmement, lorsque vous avez des groupes où les actionnaires vous fixent des objectifs de rentabilité financière de 15%, eh bien c'est une incitation à aller délocaliser en zone dollar et dans les pays à bas coût. Donc là, le problème de la politique industrielle devra, tôt ou tard, être à nouveau posé, au moins à l'échelle nationale, si ce n'est à l'échelle européenne. Le cas d'Airbus est symptomatique. Airbus qui délocalise aujourd'hui en zone dollar parce que l'euro est trop fort. Mais pour d'autres raisons, Airbus est symptomatique. On aurait pu concevoir que les champions nationaux prennent le relais, les champions européens prennent le relais des champions nationaux. Or, pour constituer des champions européens, il faut que les États s'impliquent dans le capital des entreprises. Et ce que l'on observe, c'est que dans le cas d'Airbus, notre partenaire allemand a refusé que l'État intervienne dans le capital d'Airbus, si bien qu'il a fallu concevoir un consortium où les représentants français étaient des entreprises privées. 15% pour Lagardère, l'autre moitié pour l'État français, mais comme l'État français n'a pas voix au chapitre, c'est Lagardère qui représentait les intérêts français d'Airbus et qui votait au nom de la France dans le conseil d'administration d'Airbus. Bon, moi ça me pose pas forcément de problème, sauf que le jour où Lagardère décide de s'en aller parce que il juge que ce Airbus n'est plus de la priorité de sa stratégie de développement, bah il n'y a plus personne. Ce qui est vrai pour Airbus le sera lorsqu'il faudra concevoir d'autres entreprises sur le terrain, d'autres entreprises industrielles stratégiques au plan supranational à l'échelle européenne. Donc là, il y a un vrai débat qui est loin d'être tranché, pas seulement au Parti socialiste, hein, mais la droite aujourd'hui qui a relancé l'idée du patriotisme économique n'a pas plus de solution de rechange.
Est-ce qu'au niveau européen, il y a des rapports de force qui pourraient, politiques j'entends, qui puissent faire que des solutions telles que celles que vous préconisez puissent un jour être mises en place? On va attendre la cinglingue.
Bah, qui vivra verra. Je vous dis ce qu'on peut dire au plan théorique, c'est que là il y a trois scénarios possibles. Il y a le scénario de l'enlisement qui est celui de l'Europe à 27 sans institutions, avec des pays dans l'euro d'autres qui ne le sont pas, pas de budget communautaire, une banque centrale qui fait ce qu'elle veut, avec un euro surévalué. Vous avez un deuxième scénario qui est celui du retour aux monnaies nationales. Puis vous avez un troisième scénario qui est celui de l'Eurogroupe qui montre l'exemple avec une harmonisation fiscale, un budget et une politique monétaire appropriée. Bon, mais après, c'est les peuples qui décident, c'est leurs représentants qui les représentent et... Là, c'est plus du ressort de l'analyse économique, quoi.
Oui, c'est bien de l'analyse politique. Et justement, il n'y a pas de parti qui a l'air de préconiser, y compris en France, de telles solutions.
L'idée de l'Eurogroupe est quand même prégnante au PS. Hein. C'est quand même là s'il y a un point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est quand même l'idée que si on veut faire avancer l'Europe, c'est sur la base d'une Europe politique que seul l'Eurogroupe peut conduire dans un premier temps. Quoi. Bon, après, il y a eu des déchirements récents, mais il n'est pas exclu que ce parti puisse un jour se régénérer à l'aune de l'arrivée à maturité d'une nouvelle génération.
C'était Des Sous et des Hommes en compagnie de Lim Hongnok. Alors Lim a écrit de nombreux livres, tous passionnants, mais si je ne devais vous en recommander qu'un, ce serait Refermons la parenthèse libérale aux éditions La Dispute, un livre vraiment très complet. Alors la semaine prochaine, mystère pour l'instant, mais j'ai cru comprendre que Nicolas Sarkozy allait à nouveau monter sur le plateau des Glières. Je pense alors à rediffuser une des émissions faites avec d'anciens résistants signataires en 2004 de l'appel à la commémoration du programme national de la résistance, parce qu'on ne peut oublier que la résistance était aussi porteuse d'un espoir social qui a donné notamment la sécurité sociale pour tous. Je pense éventuellement à vous faire entendre l'entretien que m'avait accordé Philippe de Chartres, un homme de droite, hein, comme Nicolas Sarkozy, mais un gaulliste. Voilà, à la semaine prochaine.